Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Luc Corloère. J'ai pas oublié le Corloère, hein. Bon, j'ai bien fait attention. Vous avez une vie professionnelle bien remplie, consacrée plutôt à l'air et aux avions. Et malgré tout, vous n'avez pas oublié de vous consacrer à la passion de toujours et de votre vie, et vous avez commencé très jeune, pour l'histoire, l'aventure, le monde de la mer, évidemment la Bretagne, dont vous êtes originaire, quoique, confessez-le, vous êtes né à Montauban. Tout jeune, vous étiez plongé dans les archives, et les archives de Paris. Et ça me rappelle un souvenir. Je suis allé dans les archives de Paris pour chercher, évidemment, on parlait de généalogie tout à l'heure, et j'ai cherché donc la généalogie du père de ma fille. Eh bien, mon ami, j'en suis ressorti avec les bras pleins de poussière. Alors, j'espère que ça a changé, parce que c'était pas très rigolo d'aller aux archives de Paris. Ça a changé ?
Pas trop.
Pas trop. Ben voilà. Bon, donc, les archives de Paris, où évidemment, vous êtes membre de plusieurs sociétés, associations et membre actif de l'Académie des arts et sciences de la mer. Vous avez donc entrepris, parallèlement à votre carrière, une nouvelle vie, celle de conférencier. Mais vous êtes aussi écrivain, auteur de nombreux ouvrages, de romans, de monographies et d'essais. Vous avez accepté tout à fait bénévolement, et c'est exceptionnel parce que c'est votre nouveau métier, vous avez accepté tout à fait exceptionnellement de venir faire pour nous une conférence bénévole. Aujourd'hui, parmi la liste très impressionnante de vos conférences, nous avons retenu la Compagnie des Indes. Mais vous êtes l'auteur, car évidemment, la Compagnie des Indes vous a inspiré un roman d'aventure, et vous êtes l'auteur d'un roman d'aventure qui s'intitule « De Port-Louis à Port-Louis ». Eh bien, je vous confesse que je ne savais pas qu'il y avait un Port-Louis en Bretagne, mais je savais, pour y être arrivé en bateau, qu'il y avait un Port-Louis à Maurice. Et donc, de Port-Louis à Port-Louis, c'est une belle histoire d'aventure, et vous pourrez trouver, si ce roman vous intéresse, vous pourrez le trouver à la sortie, et il vous sera dédicacé. En attendant, encore merci d'être parmi nous, et puis, hein, nous allons vous écouter.
Merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de savoir que mon ami Frédéric Bidouze intervient prochainement. Nous sommes très liés et j'ignorais qu'il venait aussi dans cette contrée. C'est parfait. Voilà, donc, j'ai été présenté, je ne vais pas revenir sur ma présentation personnelle, mais ce que je vous demande, c'est de bien vous accrocher à vos chaises, parce que nous allons embarquer à bord des vaisseaux de la Compagnie des Indes, et nous allons partir à l'autre bout du monde et revenir au XVIIe siècle. Je voudrais quand même, en préambule de cette conférence, vous mettre l'accent sur le temps qui n'avait pas la même valeur pour nos ancêtres. On va le voir tout au long de cette conférence, que ce soit pendant les voyages, les affectations, les retours. Eh ben, on passait 2 ans, 3 ans, mais même si on vivait que jusqu'à 50 ans, ça n'avait pas d'importance. Alors qu'aujourd'hui, hein, déjà j'imagine que dans la salle, il y en a qui disent « Ah, je vais avoir ça à faire ce soir, demain je vais à tel endroit ». Non, ils ne vivaient pas du tout comme ça. Et ça, on va le voir lors de cette conférence sur la Compagnie des Indes que nous allons découvrir ensemble. Ici, nous avons l'Orient avec... au début de cette aventure. Alors, l'idée viendrait de Colbert. Colbert qui a dit en 1662, il faudrait que nous créions une compagnie pour naviguer et négocier depuis le Cap de Bonne-Espérance, presque dans toutes les Indes et mers orientales. Alors à l'époque, il existait, la nature avait toujours horreur du vide, hein. Il existait bien évidemment des armateurs français qui allaient vers les Indes. Les Malouins, les Nantais, les Bordelais, armés des bateaux, partaient vers les Indes, mais c'était plutôt des affaires, on va dire, un peu individuelles. N'oublions pas qu'il y avait aussi les Anglais et les Hollandais qui possédaient eux-mêmes des compagnies des Indes. Et nous, la France, au milieu de tout ça, la deuxième nation du monde à l'époque, hein, puisqu'il y avait l'Angleterre qui était là, il y avait eu l'Espagne un peu avant, mais avec l'Angleterre, on se disputait un peu cette gloire d'être la nation la plus forte du monde, eh bien, on n'en avait pas. Et Colbert a cette idée en 1662, et il va en parler au roi. Dès lors, ça va devenir l'idée de Louis XIV. Alors, on dirait le logo, hein, à l'époque, à l'heure actuelle, mais bon, les armoiries, les armoiries de la Compagnie des Indes française, pour ceux qu'on fait du latin, florebo quocumque ferrar. Partout où j'irai, je fleurirai. C'était une belle devise, hein. Alors, Louis XIV va écouter Colbert, et lui, de toute façon, vous connaissez l'état d'esprit de Louis XIV. L'État, c'est moi. Et par conséquent, il dit, Colbert, c'est très bien cette idée, mais je l'avais déjà eue. Hein. Donc, je veux procurer au royaume l'utilité du commerce d'Asie et empêcher que les Anglais et les Hollandais n'en profitent seuls, comme ils l'ont fait jusque-là. Alors, vous voyez, hein, c'est pas uniquement pour créer une compagnie et aller faire du commerce. C'est aussi parce qu'il y a ces Anglais et ces Hollandais. On va en parler. Il y a peut-être des Anglais dans la salle, mais enfin, peu importe. Il y a des Hollandais aussi. Bon.
Il y a des Belges.
Donc, les Français étaient très méchants. Non, je continue. Mais, voilà. La Compagnie des Indes, elle est créée sur la cassette du roi, qui va la doter de 9 millions de livres, ce qui est une somme assez importante, et il va lui donner le monopole pendant 50 ans. Mais attention, le monopole, c'est avoir le droit de propriété sur les endroits où la Compagnie des Indes va installer des comptoirs, le droit de battre monnaie, et le droit d'avoir une armée, d'armer des navires, et le droit de haute et de basse justice. C'est-à-dire que dès lors qu'on sera sur un vaisseau de la Compagnie des Indes, point de salut. Hein, c'est le capitaine qui va décider. Sur l'île, ce sera le gouverneur. On va lui assigner 3 ordres à la Compagnie des Indes. On va lui dire, d'abord, il faut faire du commerce. Il faut ramener ce que l'on n'a pas en France. Ces soieries qu'on ne sait pas peindre, ces cotonnades que les Indiens savent faire, on va les ramener, on va les vendre, et on va ramener de la porcelaine, faire du commerce. Alors, on va assurer une présence politique, soyons clairs, hein, une présence politique, c'est, écoutez, la Compagnie des Indes, il y a des îles qui n'appartiennent pas à grand monde, vous allez en faire des comptoirs, et puis on verra par la suite. Donc, la Compagnie des Indes va s'approprier des îles, et notamment 2 îles qui sont dans l'océan Indien. La première, c'est l'île Bourbon, que vous connaissez, la Réunion, et la seconde, c'est l'île de France, l'île Maurice. Donc, je vais vous parler beaucoup d'île de France. Nous ne serons pas dans la région parisienne. Je parle bien de l'île de France au milieu de l'océan Indien. Développer la culture et la religion. La culture et la religion, la France est la fille aînée de l'Église. On ne va pas aller en Inde et sur les îles sans avoir l'accord de Rome. Et pour cela, on va civiliser, pardonnez-moi, les personnes qui habitent là-bas, culture et religion. La culture, bien évidemment, Louis XIV est le premier à dire que, oui, la culture existe, dès lors qu'elle est française. Alors, on va étudier en noir 3 points géographiques. Le Havre, Paimbœuf, Bayonne. On va étudier, on va passer plusieurs mois à étudier ça, et puis finalement on va choisir celui qui est en rouge, c'est-à-dire Port-Louis. Ça n'arrive plus maintenant hein, qu'on fasse des études comme ça et puis que finalement on choisisse autre chose. Mais à l'époque, ça existait. Bon, bref. Là, nous avons Port-Louis. Alors, Port-Louis, qui se situe au sud de la Bretagne, hein, entre Brest et Nantes, allez, soyons à peu près clairs, et Port-Louis est une citadelle qui domine, enfin, qui domine un estuaire de mer, là, à Gavre, et on va construire, donc, le... alors, voyez, ici, vous avez Port-Louis, et on va construire ici, sur un endroit, sur la rivière le Scorff, ou le Blavet, ça dépend comment on regarde, en tout cas, à l'orient de Port-Louis, on va construire une nouvelle ville. Bon, on va l'appeler Lorient. Au début, avec une apostrophe, et puis après, eh ben, on va tout rassembler, et ça va devenir Lorient. Lorient, la ville que vous connaissez aujourd'hui, on y reviendra. Et le premier vaisseau de la Compagnie des Indes va s'appeler le Soleil d'Orient. Magnifique bateau qui, on le verra tout à l'heure, fait, je crois, 1000 tonneaux. Oh, c'est facile hein, pour calculer la cale d'un bateau. Ben, on a des tonneaux et puis on compte combien on en met. Ben, s'il y en a 1000, voilà, il fait 1000 tonneaux. Bon, vous le savez maintenant, vous êtes des marins aguerris au port de Sarlat. Alors, on voit ici l'intérieur d'un bateau. Ben, écoutez, l'intérieur d'un bateau, c'est très simple. Il y a de la place pour personne. Hein. On met les vivres, l'accastillage, les voiles de rechange. Ici, il y a des canons, parce que même les vaisseaux de la Compagnie des Indes française sont armés. Hein, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des Anglais, des Hollandais. Et donc, on a, écoutez, c'est simple, les canonniers dorment au pied des canons, les gabiers, ceux qui vont dans les mâts, dorment dans l'entrepont, et il n'y a que les officiers qui ont... des cabines qu'on appelle des carrés d'ailleurs, et croyez-moi c'est des carrés, hein, ça fait 1m50 sur 1m60 et je crois que la largeur des lits c'était 50 cm. Vous voyez ? Ah, je sens dans la salle des gens qui vont dire, oula, mais moi 50 cm, 1m60, oui. Alors, les bateaux vont être à quai, et on va les approvisionner, les premiers bateaux, on va les approvisionner, bien sûr, il faut une ancre de rechange, un mât, des tonneaux, et puis des boulets. J'ai fait un livre sur l'amiral Prokhorov, et j'ai beaucoup aimé la phrase de Suffren, le bailli de Suffren, qui était un grand marin, qui... aimaient bien manger à bord. Les amiraux français, avant la Révolution, c'était bien connu, ils aimaient bien manger à bord. Et il y a un inspecteur de la marine qui était venu à bord de son bateau et qui lui avait dit « Mais, commandeur, vous embarquez autant de poulets que de boulets !» Alors là, on embarquait aussi des boulets, hein, vous les voyez ici. Et puis, on avait aussi... les différents taux, et le bétail sur pied, parce que comment conserver la viande sur des bateaux de ce type ? Eh bien, simplement parce qu'ils étaient vivants. Et les légumes frais, c'était une difficulté, les légumes frais, parce qu'ils étaient frais quand on partait, mais après, il y avait des problèmes, et ce qui se passait aussi, bon, même si je sais que les Hollandais mangeaient de la choucroute à bord, parce que ça se conservait assez bien et que ça évitait le scorbut, les Français n'avaient pas trop d'appétence pour la choucroute, et par conséquent, ils faisaient des haltes de temps en temps sur des îles pour s'approvisionner en fruits frais. Voilà. Alors, on va prendre la route, hein, c'est comme dit, on va partir, les premiers vaisseaux vont partir de l'Orient au mois de mars. Au mois de mars, il commence à faire à peu près bon. La plus grande difficulté du voyage, en fait, il y en a deux. La plus grande difficulté de navigation et le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, là, au large de l'île de Ré, Bordeaux. Là, on a quoi? On a des bateaux qui sont très lourds, qui fonctionnent à la voile. Là, il y a des courants, il y a le Gulf Stream qui remonte, il y a des courants qui descendent. Et puis, pour se diriger, quand il n'y a plus de vent et qu'on dérive, il y a que... On jette des ancres, enfin, on essaie de... C'est vraiment assez rudimentaire. Alors, quand le vent est là, bon, tout va bien. Allez, vent arrière et en avant, monseigneur. Mais on part donc de l'Orient, on arrive au large du Cap Finistère, environ... Cap Finistère, hein, en Galicie, en Espagne, environ une quinzaine de jours après. Et si les vents vont bien, 15 jours après, on passe l'équateur, ce qu'on appelle la ligne. Et alors là, bien sûr, c'est la fête à bord. Il y a ceux qui l'ont déjà passé, les vétérans. Et puis il y a ceux qui ne l'ont jamais passé. Alors pour eux, il y aura des gages. Il y a un des matelots qui est déguisé en Neptune et qui va leur donner des gages, monter au mât, sauter à l'eau, lui envoyer une corde, bien sûr, au perme du monde. Et il y a des fêtes et des libations impressionnantes. Alors on va mettre à peu près 3 mois pour arriver au Cap de Bonne-Espérance. Or, Cap de Bonne-Espérance, c'était assez récent, hein. Ça s'appelait le Cap des Tempêtes, avant. Ça portait bien son nom, hein, parce que ça n'avait rien à envier au Cap Horn. Et là, il fallait virer de bord, bien sûr, hein, pour contourner l'Afrique. Et là, ce n'était pas toujours facile. C'était la deuxième difficulté du voyage. Et enfin, eh bien, on allait remonter les Alizés pendant la mousson. Et le sixième mois, on arrivait à l'île de France. 6 mois de voyage. Vous voyez que la notion du temps était complètement différente. Surtout qu'on restait 3, 4, 6 mois en escale et on revenait 6 mois après. Donc on revenait un an et demi après. On va voir que ça a des conséquences quand même. Alors, il va y avoir des bateaux qui vont partir régulièrement. Alors, au début, c'est 2, 3, 4, 5 bateaux par an. Et puis, petit à petit, eh bien, on va avoir des vaisseaux qui vont partir régulièrement vers l'île de France. Ben, vous avez ici le Griffon. Vous voyez, le Griffon, département du Port-Louis, le Griffon qui part pour l'île de France, le rôle d'équipage. Et vous voyez, c'est 400 tonneaux. Bon, c'est pas beaucoup. 22 canons. Bon, c'est pas... Hein, le vaisseau royal, c'était 74 canons. Le 74 canons, on y reviendra tout à l'heure. Donc, sur un vaisseau de la Compagnie des Indes, ben, vous pouvez voir que les officiers et majors, je vous ai traduit leur nom ici à gauche, Pierre-René de Saint-Louis, Alexandre Bigot de la Cante, Joseph Jean de Nobon, ce ne sont que des nobles. On ne peut être officier à la Compagnie des Indes que si on est d'extraction noble. Il en va de même dans la Royale. Dans la Royale, il y a 2 catégories d'officiers. Il y a les officiers rouges, qui sont les officiers nobles, et là, il y a les officiers bleus, qui sont des officiers non nobles, et qui par contre restent à des grades subalternes. D'ailleurs, on voit que c'est des blancs à la Compagnie des Indes avec uniforme bleu. On le reconnaissait de loin, les officiers de la Compagnie des Indes. Je vous rappelle qu'à droit, à bord de leur vaisseau, ils avaient droit de vie et de mort sur les gens qui transportaient, que ce soit leurs matelots, des soldats et autres. Ils avaient ce droit de haute et basse justice. Alors, imaginez-vous... quand il y a, 100-150 hommes à bord, pour la Compagnie des Indes, c'est beaucoup plus sur les vaisseaux de la Royale. Eh bien, en tout cas, on va se rendre compte, par exemple, que sur le Griffon, eh bien, il y a 10 mousses à bord du Griffon, moyenne d'âge 14 ans, décédé pendant le voyage 3, débarqué pour maladie à l'île de France 1. Il y a une mortalité très importante des mousses. Vous voyez, on le voit ici, la mortalité des mousses sur le Griffon est de 30%. Alors là, le capitaine va quand même se faire engueuler. Parce que les mousses qui ont entre 14 et 17 ans après ils sont matelots, Eh bien, sur un bateau comme le Griffon, il en fallait 8 pour que ça fonctionne bien. Donc on en prenait toujours 2 parce qu'on savait qu'il y avait un taux de perte. Un taux de perte, il tombait malade, il... Mais là, dans le cas présent, il en a perdu un de trop. Donc il va devoir rendre des comptes. Hein, on va dire, c'est pas bien, hein, capitaine. Bon. Mais on voit aussi que le mousse sur un vaisseau de la Compagnie des Indes, c'est le souffre-douleur de l'équipage. C'est le souffre-douleur de l'équipage. C'est des gamins qui ont des vies vraiment très compliquées. Hier à Périgueux, je faisais une conférence sur les graviers, ces enfants qui retournaient les morues à Terre-Neuve. Mais c'est pareil, on les considérait à peine comme des enfants. Bon, bah écoutez, en tout cas, il faut se dire que la mortalité était importante. Quand on regarde la composition de l'équipage du Griffon à destination de l'Île-de-France, ben vous voyez, officier-major 7, je ne vais pas vous faire le détail, les matelots de Port-Louis, c'est-à-dire inscrits à Port-Louis, qui ont pris leur engagement à Port-Louis, il y en avait 44, un de Bordeaux, un de Brest et un de Vannes. Et on voit aussi 3 domestiques et 10 mousses. Bon, il n'en aura que 7 à l'arrivée. Donc, il y a 90 personnes à bord de ce bateau. Ce n'est rien. On dit, en règle générale, qu'un 74 canons, un 3 ponts de la marine royale, 74 canons, il faut multiplier par 10. C'est 740 hommes. On va regarder le Bourgogne. Le Bourgogne, vous voyez, on a 17 officiers-majors. Ça, c'est un vaisseau de guerre, hein. Hein, c'est un 74 canons, on a 17 officiers, on voit la messe France, donc c'est les officiers qui ne sont pas d'extraction noble, les gens de mer, c'est les matelots, la garnison, 130, les surnuméraires, bon, ils s'occupaient de tout, la comptabilité, l'approvisionnement, etc. Et vous voyez, il y a 850 hommes à bord de ce vaisseau, c'était assez étriqué, mais... Voilà, et vous voyez tous ces gens de mer. Alors la garnison, en règle générale, elle va partir vers les îles et rester pendant 5 ans sur les îles. C'est le contrat à peu près, 5 ans. On sait que l'espérance de vie d'un militaire à l'époque, c'était de l'ordre de 40 ans. Ben voyez, il lui fallait à peu près un an pour y aller, 5 ans sur place. Quand on l'oubliait pas, on le ramenait, il rentrait 7 ans après, il reconnaissait plus personne, hein. Et puis la famille avait bien changé. S'il avait une femme, malheureusement, je ne sais pas ce qu'elle était devenue. Mais en tout cas, bon, c'était des familles, pas forcément. Il essayait de pas se marier, hein. Il vivait dans le péché, comme disait à l'époque. Alors, on a ici la coupe d'un vaisseau de la Compagnie des Indes. Hein, vous l'avez déjà eu. D'un navire de guerre. Et vous voyez que sur un navire de guerre, il y a encore moins de place. Il y a beaucoup plus de canons et forcément, il y a encore moins de place. Et les soldats, les 130 soldats dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient transportés pour aller sur les îles, eh bien, on n'en voulait pas sur le pont quand il y avait la manœuvre. Et donc, ils devaient rester en fond de cale. Et ils n'avaient... Alors, ce qu'ils trouvaient souvent, parce que, bon, ils étaient malins, ils se mettaient en duo avec un marin, un gabier, par exemple, ils montaient avec eux, et puis ça leur permettait de profiter du voyage, d'apprendre un métier qu'ils espéraient pouvoir eux-mêmes réaliser une fois que leurs 5 ans d'engagement seraient terminés. On s'engageait, quand on était souvent, alors je ne parle pas des officiers et des sous-officiers, mais le soldat du rang, bah, c'est qu'il... soit il se faisait avoir par un sergent recruteur, ce qui arrivait dans les bars de Brest et de Nantes, soit parce que il était d'une famille où il n'y avait pas la place pour lui, pas de quoi le nourrir, donc il s'engageait. Et le troisième cas assez fréquent, eh ben, c'est quand il avait fait des bêtises, eh ben, on le condamnait à partir 5 ans à s'engager, et là il partait. Bon, c'était pas toujours des gens de bonne compagnie, hein, non plus, hein. Les matelots non plus, d'ailleurs. Voilà, ici on a l'Orient, vous pouvez constater que nous sommes à la fin du 17e, que la ville commence à grandir. Vous voyez, les rues sont assez droites, des avenues. Alors ici on a les magasins, les entrepôts, le stockage. Ici, on a les bureaux de la compagnie, et puis à côté, le chantier naval. Mais l'Orient va grandir rapidement. Hein. À la fin du 18e, on a pas loin de, je crois, c'est 15 000 habitants. Donc c'est une ville qui grandit. Alors au début, ça n'a pas démarré tout de suite, mais avec les chantiers navals, avec le commerce qui va s'y mettre, bon, ça va attirer des négociants, des gens qui vont vouloir faire des affaires, des gens qui vont aimer les gens qui font des affaires. Enfin bon, on va avoir un peu de tout. Alors, voilà, hein, dans les années 1740, les règles d'urbanisme très strictes, et d'ailleurs, si vous visitez l'Orient, encore aujourd'hui, bien que la ville ait été détruite en 39-45, mais les rues sont restées au même tracé. On a utilisé pour ça notamment les cadastres, et on a conservé le tracé des rues. Les maisons ont été reconstruites différemment, mais en tout cas, le tracé assez rectiligne existe toujours à l'Orient. Alors, je vais vous faire voir un petit film d'une télévision qui s'appelle TV Morbihan, qui n'existe plus. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer les rushs, comme on dit. Et vous allez voir présenté, il y a une douzaine d'années, par le conservateur qui s'appelait Madame Balignan, je crois, l'histoire du musée de la Compagnie des Indes. Et ça va vous permettre de voir en quoi consistait le commerce, de manière bien plus précise que ce que je peux vous le dire, bien évidemment. C'est parti.
Alors, le musée de la Compagnie des Indes, qui est le musée municipal de la ville de Lorient, se situe sur le territoire de la commune de Port-Louis, qui se trouve de l'autre côté de la rade, et au sein de la citadelle de Port-Louis, donc qui est un très bel exemple d'architecture militaire du XVIIe remanié au XVIIIe siècle. Le parcours commence de manière historique, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer aux visiteurs déjà qu'il y avait un commerce entre l'Orient et l'Occident avant les Compagnies des Indes, ça existait déjà via la route de la soie, le commerce caravanier. Ensuite, on explique ce qu'est une Compagnie des Indes, pourquoi l'histoire des Compagnies des Indes est à ce point liée à l'histoire de la ville de Lorient. En fait, il faut savoir que la ville de Lorient n'aurait pas existé finalement si les compagnies n'avaient pas existé. Alors effectivement, nous présentons la maquette d'un navire assez célèbre, le Soleil d'Orient, donc qui est le premier vaisseau qui a été construit à Lorient sur les chantiers de la Compagnie des Indes. Et donc c'est un vaisseau de 1000 tonneaux, donc c'est un volume considérable. Un tonneau, c'est 2,83 m. Donc il avait une contenance de 1000 tonneaux, il était armé de 60 canons, c'était vraiment un très gros navire. Au départ, le port de Lorient est surtout un port de réparation de radoux et d'armement des navires, c'est-à-dire qu'on n'y construit pas vraiment, mis à part l'exception du Soleil d'Orient dont je viens de parler. Et ce n'est qu'à partir des années 1720-1730 que ça devient vraiment un grand chantier de construction. Si bien que dans l'enclos du port, l'enclos de la Compagnie des Indes, on peut trouver, selon les périodes, de 1000 à 3000 personnes qui s'activent quotidiennement. C'est-à-dire qu'après, on entame le voyage, hein, donc on est plus dans une perspective géographique, et on va passer en revue toutes les destinations de la Compagnie des Indes. Donc l'Afrique, pour démarrer. L'Afrique, où on allait chercher l'or, l'ivoire, la gomme arabique, mais aussi les esclaves. Hein, donc on évoque le passé négrier du port de Lorient, qui pendant quelques années a eu le monopole de la traite des esclaves. Ensuite, on arrive au Mascareigne, donc qui était le lieu de relâche de la Compagnie française, l'île Bourbon qui est la Réunion aujourd'hui et l'île de France qui est l'île Maurice aujourd'hui, donc sur lesquelles la Compagnie a établi des colonies et sur lesquelles elle a développé la culture du café qu'elle allait auparavant chercher à Mocha en Arabie Saoudite et qu'elle a développé, donc ça a donné le fameux café Bourbon. Donc on arrive en Inde, qui était vraiment le pays visé avant tout par la Compagnie parce qu'on y trouvait les épices notamment, au premier rang desquels le poivre, qui était vraiment une épice indispensable dans la vie des Européens à l'époque. On allait y chercher aussi du thé, surtout en Chine, mais un petit peu en Inde également. Et les cotonnades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de bien faire comprendre aux visiteurs, c'est que les cotonnades indiennes étaient des marchandises très très recherchées à l'époque en Europe, parce qu'on ne savait pas en Europe filer le coton aussi parfaitement que les Indiens, et surtout on ne savait pas fixer les couleurs sur le coton. Je pense que la collection est vraiment très très variée, c'est-à-dire qu'en venant au musée, on voit, enfin je pense qu'il y en a pour tous les goûts, on voit aussi bien des cartes anciennes, des porcelaines, des cotonnades, des portraits des grands hommes qui ont fait l'histoire de la Compagnie des Indes. C'est un épisode de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément parce que ce n'est pas l'épisode forcément le plus développé dans les programmes scolaires. Et c'est vraiment toute une histoire très très exotique qu'on peut prendre aussi de manière très moderne puisque c'est au 18e la mondialisation des échanges et la délocalisation de la production, des échanges de technologies. Il y a vraiment plusieurs aspects à cette histoire.
Alors oui, précisément le début de la mondialisation, c'est vrai. Du temps des compagnies des Indes. Et quand on regarde ici sur cette carte, on partait donc de l'Orient, de Port-Louis, on descendait le long de la côte Espagne-Portugal, éventuellement on pouvait s'arrêter aux Açores, aux Canaries, et puis on vous l'a dit lors du reportage, à Gorée, où les chefs de village venaient amener les esclaves à vendre. Et là, ils étaient embarqués très rapidement. Hein. Les négociants vont trouver que très rapidement, c'est très rentable d'embarquer des esclaves à Gorée et de les revendre sur les îles. Et ce qui va se passer pendant plusieurs décennies. Et donc on va... je suis allé trop loin. Oui, on va descendre donc la corne de l'Afrique, doubler le cap de Bonne-Espérance, donc environ 3 mois après. Et là, on va arriver à l'île de France après 6 à 7 mois de voyage, suivant les vents et suivant les courants. On a ensuite, en bleu, vous avez... Alors, après, ça essaime, hein, ça part, on en parlera tout à l'heure de l'Inde, mais on va repartir de l'île de France pour aller à Madagascar, en Inde, au Japon, etc. Et ensuite, en bleu, ça... C'est quand le bateau a été déchargé, qu'il a été nettoyé, etc. C'est 2-3 mois après son arrivée, quand le temps est bon. Bon, on va, c'est le bleu, on va remonter et on va s'arrêter à l'île de Sainte-Hélène. Ah, pourquoi s'arrête-t-on à Sainte-Hélène, hein? On est bien avant Napoléon. Ben, tout simplement parce que sur cette île, il y a entre la France et l'Angleterre. Un gentleman agreement, c'est-à-dire qu'il y a un accord. Il y a un gouverneur de Sainte-Hélène qui est anglais et il y a un consul qui est français. Donc, comme ça fait des mois qu'on est parti de France, hein, et que tous les bateaux à peu près sont partis à la même période et vont rentrer à la même période, ben on s'arrête et on dit « Gentleman, contre qui sommes-nous en guerre ?» Et là... En fonction de l'ennemi, parce qu'en 6 mois, 8 mois, il a pu se passer des choses, eh bien, on va s'armer ou pas à la vue d'un pavillon hollandais, espagnol, et très souvent anglais. Et on va... si la paix règne partout, ben on va peut-être s'arrêter à Ascension, là, pour faire quelques provisions de fruits, et ensuite... Eh ben, on va revenir à l'Orient. Et là, c'est souvent 2 ans après. Hein, les marins, ils vont revenir 2 ans après, dire bonjour à leur famille. Alors, on est arrivé peut-être en novembre, hein, avant le mauvais temps. Et puis, on est là 3-4 mois, et ça y est, en février, il faut être à nouveau sur les bateaux pour repartir en mars. C'est ça, leur vie. C'est ça. Et on va le voir dans les lettres tout à l'heure. Alors, quand on voyage, on a des cartes à l'époque. On a des cartes et on a notamment le Neptune oriental ou le routier général. Alors, ça, c'est un espèce de... Les gamins connaissent plus ça, mais dans les voitures, on avait un guide Michelin, là, avec des cartes. Ben, en fait, c'était ça qu'ils avaient sur les bateaux. Il n'y avait pas de GPS, hein, on est d'accord. Et donc, sur les bateaux, ils avaient ce routier général, et en fonction de l'endroit où ils étaient, s'ils voulaient aborder sur une île, ils regardaient quelle passe prendre, quel rocher éviter, et eux-mêmes, chaque bateau devait faire un recueil de voyage. J'ai pas dit voyage, hein, j'ai dit voyage, parce que ça s'écrivait comme ça, voyage. Et chaque capitaine... Ensuite, s'il abordait dans une île, bon, je ne sais pas, il y avait un malade qu'il fallait débarquer. Bien souvent, on attendait pas trop, et quand il fallait débarquer, on le débarquait au fond de la mer parce qu'on n'avait pas trop de temps à perdre. même si le temps n'avait pas la même importance. Et donc, chaque capitaine notait lui-même ce qu'il avait découvert. « Ah, je me suis arrêté à l'île du sable, donc ici, il y a deux rochers comme ça, ici, le fond, on l'a sondé le matin, le soir, à marée haute. » Et il va, chacun va rédiger son recueil de voyage, et le recueil de voyage va enrichir le Neptune oriental. Voilà comment ça marchait. Alors, je vais vous lire un petit extrait de mon roman de Port-Louis à Port-Louis, parce que c'est justement à propos du voyage. Alors, moi, j'aime pas lire mes livres, hein, je ne sais pas, enfin, s'il y a d'autres auteurs dans la salle, mais... Alors, ils arrivent, ils sont partis de France, et là, ça fait 7 mois qu'ils sont partis, et ils discernent l'île Bourbon. Donc, ils sont pas très loin de l'île de France. Et ils sont heureux. Alors, forcément, les vivas explosent. Enfin, la terre. Enfin, les bars. Et voilà. Et alors, nous n'eûmes pas le temps de profiter de ce moment de joie, car à peine avions-nous viré de bord qu'une violente bourrasque fit grincer toute la mâture. Il fallut affaler. Ça veut dire descendre les voiles. Hein, pour éviter de sombrer sur les roches escarpées de la pointe de la table. C'est alors que, venant du large, une épaisse nuée sombre nous entoura et la tempête de l'océan se déchaîna. Un mur d'eau fut discernable à bâbord. Des vagues démesurées passèrent par-dessus le bastingage. Nos voiles furent déchiquetées par les bourrasques. Des paquets de mer arrachèrent le gouvernail, offrant notre flanc endommagé aux lames qui s'y engouffrèrent, puis lestés brutalement d'un côté, le vaisseau désemparé, transformé en toupie, fut retourné, nous allâmes par le fond. Alors le témoignage nous est arrivé parce qu'il s'en est sorti, hein. Sinon je ne le saurais pas. Hein. Madame la Présidente disait tout à l'heure qu'aller dans les archives c'était de la poussière, mais... Moi, je suis un rat d'archives. Hein. Alors, ce que j'aime, c'est quand on m'amène les cartons, là, et que j'enlève le couvercle, et que je pose le registre, et que j'ouvre le registre. Et là, il y a une odeur de siècle qui se répand dans la pièce. Et puis, moi, je vis avec ces gens qui ont vécu 200 années avant moi. Et je prends ces témoignages. Même, j'en oublie le temps, l'heure, et souvent de manger. Mais je m'en rattrape le soir, hein. Et voilà. Alors, on continue sur notre propos, bien évidemment. Et nous allons parler de Port-Louis. Port-Louis, la capitale de l'île de France. Oh, c'est une ville qui a bénéficié d'une erreur. C'est-à-dire qu'à l'époque, les bateaux arrivaient à l'île de France du côté est de l'île, un endroit qui s'appelle Grand Port, et puis finalement, ils ont décidé de migrer vers le nord-ouest, et là, ça n'avait pas de nom où ils habitaient, c'était une espèce de port en eau moyennement profonde, et les marins ont vu ça, ont dit, oh, bah, disons, c'est pas terrible, hein, c'est pas l'accent qu'il y avait à l'époque, hein, je vous rassure, mais en tout cas, ça leur a pas plu, et ils ont dit, ben, on va appeler ça Port-Louis, ça va nous rappeler Port-Louis de France d'où nous sommes partis, et comme ça, la nostalgie va un peu s'atténuer. Quand Louis XV, hein, on est après Louis XIV, quand Louis XV a appris ça, il a dit, ah, ces braves marins, ils ont vraiment mis le prénom de leur roi. Oui, non, c'était pas, ça n'avait rien à voir. Voilà, donc Port-Louis, qui va devenir rapidement une ville importante, en 1770, hein, donc vous voyez, 100 ans après la Compagnie des Indes, il y a 25 000 habitants à Port-Louis, dont 20 000 esclaves. Et là, je voudrais faire une parenthèse. On veut déboulonner Colbert. Mais les gens qui veulent déboulonner Colbert, il faut qu'ils savent quelque chose. C'est que les esclaves, à Port-Louis, c'était les grands propriétaires terriens qui avaient des esclaves. Et les esclaves... quand il y a, on peut le voir, un acte notarié de succession, par exemple, eh bien, il y a les maisons, il y a le mobilier, le non mobilier, les ustensiles, et puis après il y a les vaches, et ensuite les poules, et à la fin, il y a les esclaves, qu'on ne considère pas du tout comme des êtres humains, hein, dites-vous bien, et on le voit dans les lettres, hein, on ne les considère pas comme des êtres humains. Alors moi, autant que vous, aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible, mais si, mais c'était pourtant le cas, et c'est pour ça que les propriétaires terriens, dès qu'un esclave avait volé, eh ben, il faisait couper une main. Et s'il recommençait, il faisait couper la tête devant tous les autres. Et Colbert, quand il a vu ça, il a dit, mais il faut créer un code du droit de l'esclave. Je vais écrire un code noir et limiter les punitions pour que nous, que la loi puisse intervenir et punisse les propriétaires terriens qui font ce mal et qui ne respectent pas le code noir. Hein, le code noir qui prévoyait des coups de fouet, qui prévoyait des entailles au mollet si le terme, je ne vais pas le réutiliser, mais si la personne, l'esclave s'échappait, ben voilà, on utilisait le code noir. Alors, aujourd'hui, on lui en veut d'avoir écrit ce code noir, mais voilà, je ferme la parenthèse, il faut que vous sachiez dans quelles conditions elle a été écrite, et surtout pourquoi. Alors, Port-Louis, vous voyez où c'est situé, et ensuite, Port-Bourbon, sur la partie est de l'île. Et Port-Bourbon, ou Grand Port, ou Grand B, je ne sais plus comment on appelle, Grand B, il s'en remettra jamais, quoi. Il a perdu la capitale, et même encore, hein, ils ont cette... Oui, mais avant, c'était nous, la capitale, hein, oui, ben... Tiens, d'ailleurs, ils ont rendu la justice à l'île Maurice jusqu'en 1964 en français. Vous voyez, pourtant, c'était une position anglaise. Alors, revenons quand même sur nos comptoirs, nos loges. Alors, je parle de loges d'officiers de l'Orient, mais ça, on est bien dans la Compagnie des Indes. Elle ouvre donc des comptoirs. Alors, on a vu 1664, la Compagnie des Indes orientales. 1671, François Martin fonde le premier comptoir à Pondichéry. Ensuite, on ouvre Chandernagore, Mahé, Karikal, Yanaon. Et de là, de ces comptoirs, il va y avoir des dépendances qui vont s'appeler des loges. En fait, on essaime. On essaime pour être le plus efficace possible. Et d'ailleurs, quand on regarde ici, eh ben, vous voyez Chandernagore, qui est à peu près au sud, hein, de l'Inde. Hein, et ensuite, tout le reste, Pondichéry qui est là. Karikal, Mahé, donc il y a le siège, il y a des loges, il y a des entrepôts, et tout ça va venir du centre de l'Inde ou du nord de l'Inde pour approvisionner les comptoirs, et de là, on va les amener sur des bateaux qui eux-mêmes vont retourner vers l'île de France, et ensuite partir vers le continent. Et d'ailleurs, Pondichéry, vous voyez, en 1775, il y a 100 000 habitants, dont un millier de Français, ce qui est assez important. Et Pondichéry va rester française jusqu'en 1949. Il y aura encore un député à l'Assemblée nationale des Français de Pondichéry, mais peut-être, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, en tout cas en 1949, Pondichéry est rendu à l'Inde et fait... c'est normal, ça constitue maintenant... la nation indienne. Voilà, Pondichéry. Alors, vous voyez, sur les comptoirs où il n'y avait pas de quai, le vaisseau qui venait de l'île de France, qui pouvait être le vaisseau de la Compagnie des Indes ou un autre, eh bien, il débarquait avec ces espèces de chaloupes, il débarquait le matériel ou il embarquait, enfin, peu importe. Et ici, on a le vendeur ou l'acheteur qui, lui, ne se déplace qu'en chaise à porteur, parce qu'il ne faut pas qu'il mette les pieds dans le sable, donc on va le transporter jusqu'au lieu où il va rencontrer un notable, un maharaja ou autre, et il va lui acheter des soieries et autres cachemire. Et moi, j'ai essayé un jour... c'était au musée de la Compagnie des Indes, ils ont une chaise à porteur, et avec des copains du musée, là, moi, je suis monté dedans pendant qu'il... Vous avez le mal de mer très vite, hein. Bon, alors, notez que ce gars-là, il venait de faire un an de bateau, bon, il était plus... il n'était plus à Sapré. Mais c'est très inconfortable. Hein. Je ne vous conseille pas. Hein. Voilà, et puis, on voit ici l'Inde au centre, et vous avez les comptoirs, enfin, les comptoirs rattachés à Pondichéry. Bah, un mocha, hein, le café, il y en a même qui disent un mocha pour un café. Cachemire pour les cotonnades. Macao, ravitaillement, Manille aux Philippines pour le chargement, Batavia en Indonésie, et puis il y avait le Japon, il y avait toute ce commerce qui s'établissait. Mais pour les Hollandais et les Anglais, c'est la même chose. Ils avaient aussi des comptoirs, ils avaient aussi des loges, ils ramenaient souvent en concurrence avec les Français, ils ramenaient aussi des soieries, de la porcelaine, ça se passait toujours très mal. Alors, il est intéressant de voir ce qu'un officier de la Compagnie des Indes disait en 1770, des épiceries, drogue, alors drogue, entendez par là des condiments, c'est pas, non, et autre chose que nos provinces ne produisent pas, dont nous ne pouvons nous passer, que nous serions obligés de tirer de nos voisins si nous cessions d'aller les chercher nous-mêmes. Il fallait aller les chercher, sinon on les achetait plus cher aux concurrents. Alors ce qu'on n'avait pas, c'était le café, le thé, le poivre, le salpêtre, le bois de teinture, les étoffes, les tissus et les porcelaines de Chine. On n'avait pas tout ça, donc il fallait ramener. Et quand on ramenait en France, c'était des fortunes qui s'établissaient, ça se vendait partout. Il y avait des magasins de la Compagnie des Indes partout, à Paris notamment, et là, c'était pendant 100 ans, ça a été la mode d'avoir un châle de la Compagnie des Indes. Nos arrière-grand-mères, même si elles n'étaient pas très riches, elles pouvaient économiser, quand je parle de nos arrière-grand-mères, c'est bien de là, elles pouvaient économiser pendant des années pour se payer un châle ou un, je crois que ça s'appelle un griffoir. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, le salpêtre, bien évidemment, hein, c'est avec ça qu'on faisait la poudre. Donc, on allait le chercher en Chine. Et quand la Compagnie des Indes a cessé, d'ailleurs, on a cherché partout en France, quand même, avec les moyens plus modernes qu'on avait après la Révolution, du temps de Napoléon. Napoléon a fait rechercher. Et en fait, le salpêtre, on a trouvé deux gisements. Un dans le centre de la France, du côté de la Creuse, je crois. Et puis le deuxième, vous me croirez si vous voulez, mais à l'Orient. Alors on va acheter des coris. Parce qu'avec ça, les coris, c'était la monnaie que les chefs de village aimaient pour échanger des esclaves. Or les coris, on les ramenait des îles, on les trouvait partout sur les plages, donc les marins passaient des semaines à ramasser des coris qu'on mettait dans des barils, dans des barriques. Et là, avec ça, eh bien, on pouvait les échanger contre des esclaves. Quand vous verrez des coris, pensez-y. Hein, ces pauvres gens ont malheureusement été achetés avec ça. Il y a eu 40 000 esclaves qui ont été transportés par la Compagnie des Indes. C'est clair, vous le voyez au musée, tout le monde le reconnaît, c'est la vérité. 40 000 esclaves qui vont subir malheureusement ce commerce triangulaire à partir de France. Alors quand on dit que l'Orient était en port négrier, je pense que l'Orient n'a jamais vu un seul esclave. Hein, bien évidemment, la Compagnie des Indes dirigeait depuis l'Orient, mais les esclaves, ils faisaient gorer les îles de l'océan Indien comme gorer vers les Antilles par d'autres compagnies. Voilà, donc la Compagnie des Indes va aussi, on l'a vu, chercher de la porcelaine de Chine. Alors ça, mon arrière-grand-mère avait une saucière, elle n'était pas riche, hein, mais elle avait une saucière de la Compagnie des Indes. Et oui, madame, c'est une saucière de la Compagnie des Indes. Et ça, ça marquait son époque, hein, comme le napperon brodé. Eh bien voilà, ça faisait partie du symbole un peu de quelque chose hors norme. Voilà, et le café, ce que je voulais dire, le café c'est aussi démocratisé grâce à la Compagnie des Indes. Le café existait avant, hein, il venait d'Amérique du Sud, Brésil et des îles. D'abord, le café est toujours associé, a toujours été associé à l'esclavage au début, hein, puisque c'est les esclaves, le coton et le café. Et par contre, il y avait le café qui arrivait d'Amérique du Sud, donc c'était plutôt réservé aux gens qui étaient aisés de pouvoir avoir du café chez eux. Mais avec l'arrivée du café de la Compagnie des Indes, eh bien là, à part de Mocha notamment, eh bien là, à partir de là, ça va se démocratiser. Et après, juste avant la Révolution et après, ça va continuer. Et là, on va boire le café à peu près dans toutes les familles de France. Avant 1650, 1670, il y en avait très peu. Mais après, ça s'est vite démocratisé. Alors, il va se produire un événement incroyable, c'est que, alors là on est plutôt du temps de Louis XV, c'est que, alors vous voyez là je vous ai montré les costumes, hein, ça doit être à peu près du Louis XIV et ça doit être à peu près du Louis XV, ici bon c'est la Révolution, bon, enfin, en tout cas les femmes avaient des robes assez imposantes à l'époque, un corset, etc. Et voilà. Et n'arrive-t-il pas qu'il y a des gouverneurs qui sont nommés pour Maurice ou pour, enfin pardon, l'Île-de-France ou Bourbon ou un comptoir de la Compagnie des Indes ou même un commandant militaire qui disent ben voilà, on part 7 ans, oui, on aimerait amener nos femmes. Amener des femmes à bord des vaisseaux. Bon, d'abord, un vaisseau de la Royale, c'était inimaginable. La femme portait malheur à bord d'un bateau, hein, je vous dis, c'était la réalité. Le lapin était interdit, et vous savez pourquoi, le rongeur, mais... d'ailleurs, il ne faut jamais prononcer son nom, ça, vous le savez aussi. Mais, alors, bien sûr, hein, les marins, ils sont extrêmement sensibles à tout ça, il y a une superstition de mer incroyable. Et la femme, c'était pas possible. D'ailleurs, ils en riaient parce qu'ils disaient, ben nous, on a un besoin naturel à satisfaire, on se met par-dessus le plat-bord et tout va bien. Mais imaginez la femme du gouverneur, non, sur le plat-bord, elle pouvait pas, les gars étaient, bon. Donc, et le roi a donné son accord. Donc, on a créé des cabines pour les femmes. Alors, rassurez-vous. Alors, toujours des lits de 50 cm, mais des cabines un peu moins longues, 1 m40, donc il fallait dormir en chien de fusil, et puis très peu, je crois qu'il y avait 50 cm de l'autre côté, vous voyez, donc pas. Alors, on sortait par temps clair, les marins se signaient, bien évidemment, parce que... alors, les premières traversées ont été difficiles, parce que les marins et les plus superstitieux étaient sûrs de ne jamais arriver. Jamais. Puis ils arrivaient. Et puis un deuxième bateau, et puis troisième, et puis 10, 5, 50. Et puis finalement, on s'est dit, ben voilà, ça porte... voilà, mesdames, vous ne portez pas malheur, ça a été prouvé. Mais par contre, imaginez, dans une cabine de 1,20 m sur 1 m, avec ce type de robe, et pendant 6 à 7 mois. Voilà. Nos grands-mères avaient bien du courage. Voilà, ça c'est une publicité pour la Compagnie des Indes à Paris, 80 rue de Richelieu, qui a été un magasin, on en reparlera tout à l'heure. Et là, nous sommes en 1720. En 1720, il va se passer quelque chose d'incroyable. La Compagnie des Indes orientales perd son monopole. Elle est fusionnée avec plusieurs autres compagnies dans la Compagnie d'Occident par le ministre des Finances, John Lass. C'est un Écossais. Le W se prononce S. Est-ce qu'il y a des Écossais dans la salle? Non. Alors, des Écossais m'ont affirmé que ça se prononçait Lass. Moi-même, je disais Law et ils m'ont corrigé. Alors, nous avons John Lass, donc. Alors, qui est-il? Mais c'est un aventurier. C'est un aventurier. On ne sait pas d'où il vient, mais en tout cas, il impressionne tout le monde. Il a une faconde, une manière de s'exprimer. Il vous parle dans les yeux, il vous emporte. et on croit en lui, et il va changer, il a trouvé la pierre philosophale, il veut tout transformer en or, c'est formidable, et on le croit, et il arrive même à être ministre des Finances de la France, vous vous rendez compte? Et ce gars-là, il va manier sa faconde pour... alors, il va fusionner la compagnie perpétuelle des Indes, vous voyez, la compagnie perpétuelle des Indes, et puis, comme il a beaucoup d'actions, lui, dans d'autres compagnies, il va fusionner tout ça. Il y a son argent à lui, il y a l'argent du royaume, là, il y a l'argent des actionnaires, et on va y croire, on va y croire. Il va émettre des actions, et il va dire aux Français, ben voilà, achetez les actions, vous aurez un rendement de 20% par an. 20% par an, mais on va tous en acheter. Mais c'est ce qui se passe. Elle fusionne avec la banque royale de l'As, qui est la banque du roi, la compagnie perpétuelle des Indes, et la spéculation fait place au commerce. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gros porteurs, ils vont se dire quand même, j'ai moyennement confiance, j'en ai acheté beaucoup. Allez, je retire mon argent. Hop, il retire l'argent. Et puis un autre entend ça, il retire le sien. Et puis petit à petit, ça y est, sur la place de Paris, partout à Nantes, on sait qu'il vaut mieux retirer son argent. Et tout le monde va essayer de retirer son argent. Mais l'argent, il n'y en a plus. C'est la banqueroute. C'est la banqueroute. Il n'y aura pas assez d'espèces métalliques pour représenter les actions. Elle va ruiner cette banqueroute. 10% des Français... Dans cette salle-là, il y a 10% de vos ancêtres, si vous êtes français, qui ont été ruinés par cette affaire de banqueroute. Alors on va se demander, mais ils étaient... Hein, bon, mais comment ils ont pu faire ça? Enfin, moi, mon grand-père avait acheté... Mon arrière-grand-père avait acheté de l'emprunt russe, et moi-même, je me suis ruiné avec Eurotunnel. Alors, nous sommes avec cela, et... Précisément, peut-être ne le savez-vous pas, mais je suis le biographe d'Edgar Faure, et Edgar Faure a écrit un livre qui s'appelle « La banqueroute de l'As », dont je me suis largement inspiré pour venir vous en parler aujourd'hui. Je suis un admirateur d'Edgar Faure, hein, celui qui disait « L'immobilisme est en marche, et rien ne pourra l'arrêter ». La compagnie fait faillite et heureusement, le gouvernement, alors l'As disparaît, hein, il part dans la nature, il mourra 2 ans plus tard, et la compagnie va être sauvée par le gouvernement, hein, qui va réinjecter de l'argent, et elle va redémarrer, et pendant un demi-siècle à nouveau, là il s'était passé un demi-siècle, on repart en 1723 sur un demi-siècle, et on va avoir des départs réguliers, vous le voyez ici, alors à partir de 1720, vous voyez le nombre de départs, et ensuite un petit creux là en 1510, et on a le très haut en 1784, et la chute, on en parlera tout à l'heure, la chute finale et définitive. Oui, parce que la Compagnie des Indes va... En 1725, 5 ans après l'As, elle va émettre des rentes viagères. Oh, vous allez dire, non mais on ne va pas les avoir 2 fois. Ben si. Les Français achètent en masse. Ils sont sûrs que cette fois, ce sera la bonne. Voilà, et bon, et ça marche. Et ça marche. Et à l'île de France, on va même aller plus loin. On y croit tellement qu'il y a pas mal de Français... qui vont s'installer sur l'île, et beaucoup vont y rester. Ils vont y rester, et d'ailleurs, on va s'intéresser à ces Français qui s'installent sur l'île. Alors, je suis d'autant plus intéressé que je n'ai eu qu'à piocher dans mes lettres de famille d'avant la Révolution pour retrouver la trace, parce que je savais, moi, que dans ma famille, il y avait eu une branche qui était allée s'installer à l'île Maurice. Et le livre de Port-Louis à Port-Louis raconte non seulement l'histoire de la Compagnie des Indes, mais aussi l'histoire de cette famille. Alors regardez bien, ça va vous surprendre. Les lettres, vous le savez, mettent plusieurs mois pour arriver. Bien sûr, on poste une lettre de Lorient, elle arrive 7 mois après à l'Île-de-France. Alors regardez. C'est Monsieur Coquerel, habitant à Maurice, hein, vous pardonnerez l'orthographe, mais M-O-R-I-C-E, pour remettre à François Corloère à l'Île-de-France. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que François Corloère est parti, et il était de Saint-Malo, et il est parti, sa femme l'a accompagné jusqu'à Lorient, elle était enceinte de 7 mois, et François n'avait plus d'argent, il était boulanger, il ne savait plus trop que faire de sa vie, boulanger et charpentier. On voit rarement ça sur les camionnettes. Hein. Alors, il part faire fortune à l'Île-de-France. Sa femme l'amène, rentre vite, François, il lui dit, oui, mais tu sais, il faut 7 mois pour y aller, 7 mois pour revenir, donc je ne serai pas de retour avant 1 an et demi. Oui, mais voilà. Alors, sa femme lui écrit un jour, et elle lui dit, si je tarde tant de t'écrire, c'est qu'on me fait entendre que ton voyage est fini, et que tu allais revenir avec ton navire à Lorient. C'est parfait. Il est parti. Et elle ne lui écrit pas, parce que de toute façon, il va rentrer. Vous voyez la notion du temps. Il rentre dans combien? Dans 4 mois. Oh, ben, je ne lui écris pas. Hein. Elle dit, pour l'argent que tu dis m'avoir envoyé, je n'ai rien touché du tout. J'ai présenté ma lettre à Mme Morin, et elle ne m'a rien donné du tout. Alors imaginez, elle va à Lorient, elle part de Saint-Malo, elle arrive à Lorient, elle attend le bateau. Alors le bateau, il arrive cette semaine, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, hein, puisque ça dépend des vents, des marées, bon bref. Et puis le bateau arrive. Et là, il y a Madame Morin qui descend, elle s'est fait présenter, voilà Madame Morin, mon mari a dû vous donner d'argent pour moi. Oh ben non, chère madame, je n'ai rien pour vous. Ah, bon, ben écoutez, alors je vais écrire à mon mari. Donc elle lui écrit, mais elle le remet à la poste, mais le bateau, il va partir au printemps d'après. Donc le mari va recevoir ça 10 mois après, ou et Madame Morin, elle a complètement disparu, et il lui dit, et il va lui répondre, oui, oui, mais je t'ai bien envoyé de l'argent, va la revoir. Mais enfin, entre-temps, il s'est passé 3 ans, Madame Morin est morte, l'argent a disparu. Alors, on trouve très peu dans ses lettres des traces d'humanité, il parle toujours d'argent, d'affaires, de la maison du père à vendre, enfin, et là, au hasard d'une missive, on trouve quelques marques d'affection. Je finis en t'embrassant d'un grand cœur. Ton épouse Marie Collin. Alors ça, on ne le trouve pas. À l'époque, on n'avouait jamais son amour. Jamais. Jamais. Alors, regardez les lettres de vos arrière-grands-parents pendant la guerre de 14. C'est très rare s'ils traçaient des cœurs. Mais là, au hasard de quelques missives, on trouve ce genre de message. Et quelque part, on se dit, ben, ils ont vécu une belle histoire. Enfin, Marie Collin, pas tant que ça, hein. Parce que là, ça fait 10 années qu'il est parti, François. Il n'est pas rentré. Et sur l'île, là-bas, des mauvaises langues prétendent qu'il aurait une femme et un enfant aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et son fils a grandi. Et son fils, il rêve de son père. Son père, il est né 2 mois après son départ. Enfin, le fils est né 2 mois après le départ du père. Et lui ne rêve que de son père. Et là, il a 14 ans. Vous voyez, c'est... Pardon, je suis allé trop vite. Hop, voilà. C'est le 22 Publius en 12. Et il écrit à son père... voilà, je sais que vous êtes en bonne santé. On vous voyait, hein, les parents à l'époque, hein, monsieur. Hein, et que vous avez acheté, hein, il faut bien acheter, une petite quantité de terre, avec 3 esclaves. Vous voyez encore, d'abord la terre et après les esclaves. Et vous me demandez de venir vous trouver. Donc il lui dit, je vais venir. Et si je puis vous être utile, sinon vous me renverrez. D'accord ? Et regardez ce qu'il écrit à la fin. Je finis de vous écrire, mais non de vous aimer. Ah oui, c'est une belle phrase. Ça vaut le coup, hein, d'aller chercher dans l'histoire de famille. Alors, le fils, alors là, le fils, il a 14 ans, ce qui veut dire que son père est à l'Île-de-France depuis 14 ans. Il ne s'ennuie pas là-bas, je vous dis. Et le père, le fils qui a idéalisé son père dit, mais je vais aller, je vais le rejoindre. Donc il s'embarque comme mousse sur un vaisseau de la Compagnie des Indes qui va couler au large de Saint-Nazaire. Vous voyez, il n'y a pas loin. Hein. Bon, il va revenir à terre, il va attendre ses 17 ans. Le père lui écrit tous les ans. Et lui écrit plusieurs fois. Et en fait, finalement, il va attendre d'avoir 18 ans pour s'engager comme mousse dans la Royale. Et là, il va partir de Cherbourg sur un bateau de guerre à destination de l'île Bourbon. Il se dit, bon, une fois que je serai à Bourbon, c'est pas si loin, je me débrouillerai. Et là, il part, mais pas très loin. Hein, dans la Manche, ils sont arraisonnés par 3 vaisseaux anglais. Ils sont tous faits prisonniers. Ils se retrouvent sur un ponton à Torbay, où nos amis anglais vont les garder pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Il va rentrer en France, il a 21 ans. Et il n'a qu'une seule idée en tête, rejoindre son père. Et là, il va embarquer sur un vaisseau, bon, pas de la Compagnie des Indes, elle n'existe plus après la Révolution, mais sur un vaisseau de commerce nantais qui part pour l'Île-de-France. Et là, il va arriver sur l'Île-de-France, son père lui a écrit un peu avant, et vous savez ce qui va se passer au moment où il va arriver ? Il faudra lire le livre. Alors, sur l'île de France, on a deux catégories de personnes, deux catégories de Français. Alors, on m'a reproché ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'à gauche, nous avons le peuple, et à droite, nous avons les notables. On m'a dit, ouais, vous ne devriez pas mettre les uns à gauche, les autres à droite, c'est politique, votre message. Non, c'est le hasard hein, qui veut ça, hein. Voilà, donc nous avions les gens de petites conditions, ouvriers, paysans, charpentiers, maçons, qui vivotaient et qui rentraient parfois en France, comme on disait à l'époque, sans un rouge liard, sans un écu même à avoir dans sa poche. Ils rentraient après avoir tout perdu. Et ils payaient le voyage en demi-sel, hein, c'est-à-dire qu'ils servaient à bord comme... gabier, comme boulanger ou cuisinier. Et à droite, eh bien, nous avons effectivement les propriétaires terriens, ceux qui achètent des quantités d'esclaves extraordinaires et qui exploitent et gagnent beaucoup d'argent. Qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, ils se marient entre eux. Alors, je vais vous parler d'une légende maintenant. Une légende. On va parler d'un vaisseau de la Compagnie des Indes. Un vaisseau de la Compagnie des Indes qui s'appelle le Saint-Géran. Le Saint-Géran, il part de l'Orient le 24 mars 1744. Vous voyez, on part toujours au mois de mars. Hein. Il part le 24 mars 1744. Alors maintenant, je vous montre la carte, mais vous connaissez mieux que moi le voyage. Hein. On longe... le Cap Finistère, le large de l'Afrique, on fait quelques emplettes à Gorée, et on va ensuite aller vers l'île de France. Vous connaissez le voyage maintenant, et en plus, je crois que vous savez lire en rôle d'équipage. Hein ? Regardez, voilà, le rôle d'équipage du Saint-Géran. Écoutez, officier-major noble 7, officier-marinier 18, etc., les pilotins... et les matelots de Port-Louis, les matelots de Bretagne, ailleurs que Bretagne, les domestiques, les mousses, les passagers, autres, vous savez de qui on parle, hein, et qui figurent à peine, d'ailleurs, sur le rôle d'embarquement, 220 personnes, et on part de l'Orient, tout va bien, on descend l'Atlantique, on double le Cap de Bonne-Espérance, on remonte de l'océan Indien, et... le 24 décembre, on arrive en vue de l'Île-de-France. C'est un voyage qui s'est déroulé magnifiquement. Mais la marée n'est pas très bonne pour rentrer, le vent n'est pas favorable. Le capitaine dit, bon écoutez, hein, ça fait 7 mois qu'on voyage, eh bien, on va. De mars à décembre, ça doit même faire plus que ça, hein, si je calcule bien, ça doit faire 9 mois, donc ça a mis un peu de temps quand même. Et on va faire le réveillon à bord, et demain, on rentrera à Port-Louis, ce sera formidable. Alors tout le monde, bien sûr, prépare le réveillon, mais il n'y aura pas de réveillon. Il n'y aura pas de réveillon parce que ce qui va se passer, c'est que la tempête va se lever, un cyclone formidable que personne n'attendait, qui va précipiter ce navire sur les rochers de l'île d'Ambre. Et voilà. Et le 25 décembre 1744, sous l'île d'Ambre, eh bien, le Saint-Géran va couler. Il va y avoir 200 morts et une vingtaine de rescapés. D'ailleurs, on dit que l'Orient va porter le deuil pendant un an. Toutes les femmes de l'Orient seront en noir pendant un an par la suite de la perte du Saint-Géran. Mais le Saint-Géran, vous le connaissez tous. Vous avez entendu parler de l'histoire. Vous la connaissez, cette histoire. Elle est dans votre inconscient. Regardez, on va regarder ensemble. Voyez, il est là, à l'île d'Ambre, et je vais vous faire voir une petite vidéo, elle ne dure pas longtemps, 2-3 minutes, mais qui va vous permettre de savoir de qui on parle en parlant du Saint-Géran. C'est un peu sombre au début, mais c'est normal, hein, c'est la nuit du 24 décembre, il fait sombre, le bateau va être naufragé, donc par conséquent, ne vous attendez pas à une excellente prise de vue. Hein. Allez, on y va.
Le Saint-Géran, un bateau français de la Compagnie des Indes, approche des côtes de l'île Maurice. Il fait nuit, c'est la tempête. Parmi les 200 personnes à bord, une jeune fille. Soudain, le bateau est projeté contre les récifs. C'est la fin. Quand la cloche sonne sur le pont, il est déjà trop tard. Passagers et membres d'équipage sont projetés à la mer. Depuis le rivage, un homme assiste impuissant à la catastrophe. Aujourd'hui encore à l'île Maurice, personne n'a oublié les naufragés du Saint-Géran. Le bateau fait désormais partie du patrimoine culturel et les monuments à la mémoire des victimes sont partout. Virginie, l'enfant du pays, est morte sous les yeux de son amoureux. C'est une icône. C'est au pied de l'un de ces monuments que nous avons rendez-vous avec deux Mauriciens.
Alors, c'est deux Mauriciens.
Jean-Michel et Yann sont tous les deux passionnés d'archéologie sous-marine et d'histoire locale.
Au large de cette côte, dans la nuit du 17 au 18 août 1744, périt le Saint-Géran, dont le naufrage a été immortalisé par Bernardin de Saint-Pierre dans son roman Paul et Virginie.
Ce mythe est donc né d'un livre. Bernardin de Saint-Pierre se serait inspiré d'un voyage à l'île Maurice, juste après ce fait divers, pour écrire Paul et Virginie, dont le succès a été fulgurant. L'écrivain nous raconte un amour impossible entre deux enfants élevés comme des frères et sœurs sur l'île. Virginie est envoyée de force en France. Les années passent, puis la jeune fille décide de rentrer. Elle embarque alors sur le Saint-Géran, mais au moment de retrouver Paul, alors que l'île Maurice est en vue, le bateau sombre accidentellement.
Il n'y a pas énormément de navires qui ont une légende pareille, et surtout qui sont restés dans l'histoire. En fait, souvent on oublie, un bateau a fait naufrage, on oublie le naufrage et on retrouve dans les archives seulement la trace de ce naufrage, alors que le Saint-Géran est toujours resté présent dans la population.
Je pense que n'importe quel Mauricien de n'importe quelle communauté ou de couche sociale pourra vous dire ce que c'est que le Saint-Géran, et si on parle de Paul et Virginie, il saurait vous répondre.
Mais avec le temps qui passe, la réalité des événements laisse la place au doute. On finit par se demander si le naufrage a bel et bien existé. Car pendant longtemps, un mystère reste entier. Où se trouve l'épave? Finalement, le naufrage a-t-il vraiment eu lieu? Autant de questions qui vont rester sans réponse pendant plus de 200 ans.
Alors, cette histoire a-t-elle vraiment existé? La réponse est oui. Il y a 3 ans, une épave a été retrouvée au large de l'île d'Ambre. C'est son ancre qui a été découverte. Voilà, on voit ici les ancres du Saint-Gérand. Alors, comment sait-on que le Saint-Gérand? Tout simplement, on a trouvé la cloche sur laquelle était gravé Saint-Gérand. Voilà l'histoire de Paul et Virginie, vous la connaissez, vous en avez entendu parler. Voilà, alors il va y avoir la guerre en 1760. Bon, les îles de France et l'île Bourbon vont être rattachées à la couronne de France. Il va y avoir à nouveau une difficulté dans les années 1770. Le roi va apurer le passif de la compagnie. Et là, on peut voir le chiffre d'affaires de la compagnie des Indes entre 1787 et 1793, avec cette pointe énorme en 1791. Ça veut dire que si on avait laissé et continué à faire, la compagnie des Indes aurait grossi de plus en plus. Mais jamais autant que la compagnie des Indes hollandaise, qui faisait à peu près 10 fois la taille de la compagnie des Indes française. Voilà, c'est le chiffre qu'il faut que vous ayez en tête. Les Anglais, c'est plus difficile à définir, parce que la compagnie des Indes anglaise mélangeait un peu les vaisseaux de la Royal Navy, qui faisait un peu de commerce aussi. Bon, donc c'était pas aussi clair que cela. En 1793... La Compagnie des Indes va être décrétée d'anti-révolution. Il va y avoir plusieurs des directeurs qui vont être arrêtés et qui vont être guillotinés, une habitude française qu'on avait prise à ces périodes-là. Les navires vont être mis sous scellé. Il y aura un procès de tous ceux qui détenaient, vous savez, ces rentes viagères. Le procès va durer jusqu'en 1875, et tous les possesseurs vont être déboutés. La Compagnie des Indes ne sera jamais, et s'il y en a qui en ont par exemple dans les placards, c'est un peu comme l'emprunt russe, ça vous rapportera plus rien. Donc c'est la fin de la Compagnie des Indes avec un bulletin de loi qui va décréter donc d'anti-révolutionnaires. D'ailleurs, tous les nobles, les capitaines de navires vont fuir et elle va se terminer. Je vais faire une conclusion, mais avant, je voudrais vous parler du duc de Duras. C'est un navire de 900 tonneaux construit en 1765 à Lorient pour la Compagnie des Indes. Et d'ailleurs, il va naviguer pendant 14 années sous pavillon de la Compagnie des Indes. Et ensuite, en 1779, Louis XVI l'offre aux insurgents américains pour qu'ils se battent contre les Anglais et qu'ils obtiennent l'indépendance des États-Unis. Eh bien, ce bateau sera renommé le Bonhomme Richard, commandé par John Paul Jones, et c'est le premier vaisseau de l'US Navy. Et encore aujourd'hui, les Américains rendent hommage le jour de leur fête nationale, le 4 juillet, au fameux Bonhomme Richard qui se battit vaillamment contre les Anglais et qui participa à obtenir l'indépendance. Je résume la Compagnie des Indes, la Compagnie de Colbert de 1664 à 1719 qui créa les comptoirs, les premiers voyages, le premier commerce avec l'Asie. Ensuite, la Compagnie perpétuelle des Indes, qui dura 50 ans. C'est John Lass qui la créa, mais bon, après, il fuit. Vous voyez, d'ailleurs, il est mort en 1729, donc 9 ans après avoir mis en tout ce système en route. Et là, la Compagnie va fructifier, perdurer. Il y aura la Compagnie de Calonne de 1770 à 1793, donc pendant 23 ans. Et moi, je dis qu'il y a une quatrième Compagnie des Indes, puisque la marque Compagnie des Indes va continuer jusqu'en 1991, notamment à Locronan, où ils vendaient des tissus, de la porcelaine, et bien sûr à Paris, 80 rue de Richelieu. Allez vous promener à Paris, 80 rue de Richelieu. Vous verrez, alors maintenant c'est un Apple Store ou un Levi Store, mais ça existe toujours, la forme du... Le magasin existe toujours en l'état, c'est que l'intérieur qui a changé. Donc c'était le magasin de la Compagnie des Indes où on achetait les greffiers, les châles et autres cachemires. Et pour terminer, la Compagnie des Indes, fondée avec des peines extrêmes par le grand Colbert, fut pendant des années une des plus grandes ressources du royaume, et c'est le grand Voltaire qui le dit. Et voilà. Et je termine avec cette belle phrase en vous remerciant absolument de votre attention. Merci. Merci.
Bon, eh ben, nous saurons tout. Pas tout à fait, mais enfin, c'est déjà beau d'avoir résumé en si peu de temps l'histoire complexe de la Compagnie des Indes. Et maintenant, si vous voulez savoir ce qui est arrivé, ça, il faudra que vous achetiez le bouquin. Bon, alors, on va bientôt se quitter, mais je prendrai une question, s'il y en a, sur la... Oui.
Quelle était la structure juridique et financière de la compagnie créée en 1664 ?
Alors, c'était une compagnie privée à capitaux royaux. Donc, je pense que le roi, ce qu'il voulait, c'était des résultats, mais il avait un droit de regard, et Colbert aussi. Et je pense que, comme toujours, et d'ailleurs, ça perdure sur des grandes compagnies françaises, comme la SNCF ou Air France, où l'État veut toujours avoir son droit de regard, même si parfois il n'est pas majoritaire.
Donc ça n'était pas du tout comme la banque
Non, c'était différent.
Bon. Oui, mais alors, Mireille, une question, hein, une question courte.
J'aurais pu vous tenir l'après-midi complète. Hein.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir s'il n'y avait dans ces voyages de la Compagnie des Indes absolument que des gens qui faisaient du commerce, ou est-ce qu'il y avait aussi des savants, des aventuriers, des gens qui voulaient découvrir le monde, enfin qui avaient d'autres buts que commerciaux, s'il vous plaît.
Absolument pas.
Ah bah.
Ça coûtait cher, ces savants, pour ramener peu de choses, à tel point que Louis XVI, lui, voyait ça d'un très bon œil, et lancera notamment l'expédition La Pérouse, avec l'astrolabe et la boussole qu'on retrouva à Vanikoro. Mais non, il n'y avait aucune visée d'avancée de science ou d'autre, que des gens aient voyagé peut-être à titre privé pour le faire, mais j'ai jamais lu ça quelque part. Mais c'est une très bonne question, oui.
Non, voilà. Eh bien, mes amis, nous allons encore remercier chaudement notre conférencier et lui dire que la route de Sarlat demeure ouverte, que de temps en temps il va à Montauban,
oui,
qu'il va en Bretagne, qu'il voyage beaucoup,
et
que mon Dieu, s'il veut bien à nouveau s'arrêter sur la route à Sarlat, nous l'accueillerons avec un grand plaisir.
Mais merci.